Théologie en liberté. Au micro, Joël Baumann. Eh bien, je suis en entretien aujourd'hui encore avec Antoine Nuis. Bonjour Antoine.
Bonjour Joël.
Antoine Nuis est théologien, docteur en théologie. Il a beaucoup écrit et dirigé le journal protestant Réforme, beaucoup écrit de livres également, une vingtaine. Nous lui sommes gré d'être ici dans ce studio. Et nous voulons avec lui aborder une question qu'il aborde justement dans un article dans Réforme, qui est, le titre c'était « Penser la laïcité ». Alors c'est une question qui nous importe beaucoup ici à Théologie en liberté. Nous sommes en train de faire une série d'émissions également avec Michel Bertrand, le pasteur Michel Bertrand, sur religion et politique. Comment penseriez-vous, vous, la laïcité aujourd'hui, et par rapport à quoi pouvons-nous fonder une laïcité ?
Je crois que ce qui fonde la laïcité, c'est la distinction. Alors, je ne parle pas de séparation, je parle de la distinction entre la sphère du religieux et la sphère du politique. Hein. Alors, en tant que théologien protestant, je m'appuie sur les Écritures, c'est-à-dire la Bible, et je vois comment est-ce que la Bible nous aide à penser cette distinction. Et alors, on peut faire référence à plusieurs textes, et on peut même commencer au tout commencement. Dans le Premier Testament déjà, bien que le Premier Testament, des fois, on pense théocratie, mais
oui, c'est quand même un régime théocratique.
Oui, mais dès le Premier Testament, il y a un certain nombre de distinctions qui sont posées. Prenons un exemple. La constitution du peuple d'Israël, selon les Écritures, s'est faite à travers une marche dans le désert. Hein. C'est-à-dire que la marche dans le désert, ce qu'on appelle l'Exode, a conduit les fils de Jacob, les fils d'Israël, qui étaient des tribus qui étaient esclaves en Égypte, à la liberté. Et à travers la liberté, on voit que dans ce chemin, à travers un désert qui conduit à la liberté, Moïse, donc qui était le chef de cette assemblée, le berger de cet exode, Moïse a institué trois catégories de personnes. Il a d'abord institué des juges pour pouvoir régler les différends au sein du peuple. Et on sait que la première condition pour qu'un peuple vive ensemble, c'est que comment est-ce qu'on gère les différends qui apparaissent dans toute vie commune ? Est-ce qu'on les gère par la force ou est-ce qu'on les gère par la loi ? Donc, évidemment, la Bible parle de la loi. Donc, Moïse institue des juges. Ensuite, Moïse institue des prêtres pour médiatiser la relation avec Dieu. Et ensuite, Moïse institue des anciens pour animer et pour diriger le peuple. Les anciens, qu'on peut dire que ça peut correspondre aux politiques. Et cette première, dès l'Exode, on voit une première distinction entre le champ du juridique, les juges, du religieux, les prêtres, et du politique, les anciens.
Et tout ça vivait ensemble.
Et tout ça vivait ensemble. Et que, justement, l'idée, c'est que pour que le peuple devienne une nation, c'est-à-dire devienne une nation qui a une histoire, qui a une identité, il y a en tout cas trois fonctions qui doivent être assumées, la justice, la politique et le religieux, et ces trois fonctions doivent être distinguées. Hein. Alors vous savez, on prête sur la distinction des pouvoirs, le nom qui nous vient à l'esprit, c'est Montesquieu. Hein. Et Montesquieu disait, finalement, il y a plusieurs régimes, il y a la monarchie, il y a l'aristocratie, il y a la démocratie, mais le plus important n'est pas tant le régime, le plus important est que le pouvoir soit divisé et qu'il y ait une distinction des pouvoirs. Et, ça. Et donc nous trouvons une première ébauche de distinction des pouvoirs dès l'Exode, c'est-à-dire dès le...
Et une opposition
le tout commençant. Non, pas une complémentarité. Non. Une complémentarité. Et puis après, et d'ailleurs quand on regarde, si je poursuis l'histoire d'Israël, et à un moment donc les anciens sont remplacés par un roi, enfin je veux dire, le peuple demande d'avoir un roi comme les autres.
Contre l'avis du prophète.
Alors au départ Samuel pensait que Non, même c'est même Dieu qui dit à Samuel, s'ils veulent un roi, c'est que ils me rejettent moi. Il me semble qu'à l'origine, Dieu avait le projet d'avoir une relation directe avec, avec son peuple, et puis s'est aperçu que non, que son peuple a besoin d'institutions, hein, d'un sens, voilà. Et le premier roi à être nommé, donc, s'appelle Saül. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc Saül est béni, voilà, c'est vous voulez un roi, je vous donne un roi, Saül, qui commence cette roi, et à un moment, Saül va faire une faute massive qui va faire que sa royauté va lui être ôtée. Et quelle est la faute qui était si grave que Saül perde la royauté? L'histoire est la suivante. Saül est à la veille de mener bataille contre les Philistins et il attend l'arrivée de Samuel pour offrir un sacrifice à Dieu, pour demander à Dieu d'être avec lui dans la bataille. Samuel n'arrive pas, Saül prend peur et Saül offre le sacrifice.
Ouais.
C'est-à-dire que Saül occupe la place du prêtre.
Hein, et à son... change de fonction.
Et voilà,
il glisse dans une fonction qui n'est pas la sienne.
Il confond, il essaie de s'approprier le politique et le religieux. Mmh. Il est roi, il est responsable politique, et il veut aussi occuper le religieux. Mmh. Et Samuel arrive, il dit « Quoi ? Tu as offert un sacrifice, la royauté te sera ôtée. Mmh. » C'est-à-dire que la chose la plus grave qu'ait faite le premier roi, c'est d'avoir voulu être prêtre en même temps que roi.
Mmh.
Pour montrer que cette distinction entre le religieux et le politique remonte au tout commencement. Alors après, il y a des rois qui vont faire des sacrifices, il y a les choses vont se compliquer, mais il me semble que ces données bibliques nous aident à, quand on essaye à penser la laïcité, en disant que finalement, la distinction entre le politique et le religieux, ce qui est le fondement de la religion, eh bien finalement, cette distinction, elle est première et elle est déjà dans les Écritures.
Mmh. Bon, alors chercher en effet une base de laïcité dans les Écritures, il fallait le faire, bravo. mais je comprends très bien, et les auditeurs comprendront avec moi, que cette différence est importante, et on la retrouve un petit peu d'une certaine manière aujourd'hui, différencier d'abord dans notre histoire. Le roi s'est approprié une prêtrise. Il y a eu comme ça une monarchie d'origine divine, voulue d'origine divine. Et l'onction.
Quand Dieu appelle Moïse au mont Sinaï, là, au buisson ardent, hein, au buisson ardent, quand il dit « J'ai entendu le cri de mon peuple, va et libère mon peuple », qu'est-ce qu'il lui dit? Au tout premier, c'est dans Exode 3. Dieu dit à Moïse « Va trouver Pharaon et dis-lui « Laisse partir ton peuple pour que nous puissions louer Dieu sur cette montagne ». C'est-à-dire que la première des libertés là, revendiquée par Moïse, c'est quoi? C'est liberté religieuse.
Mmh.
Hein. C'est-à-dire que, et il me semble qu'effectivement, la liberté religieuse est un bon critère pour juger d'un gouvernement, et parce que la première tentation des tyrans, appelons les choses par leur nom, eh ben, c'est de vouloir réduire la liberté religieuse pour pouvoir être le maître des personnes, y compris de leur pensée, de leur foi.
Alors, toujours dans le Premier Testament, on voit bien tous ces livres prophétiques, on voit les prophètes quand même se battre un peu légèrement, quelquefois légèrement, quelquefois en osmose, mais quelquefois vraiment d'une manière dure, contre un roi, contre une décision. Comme, et du coup, on voit un peuple d'Israël confronté à un choix. Un choix possible.
Et les prophètes, là, sont présentés comme des contre-pouvoirs. J'ai dit tout à l'heure que séparation des pouvoirs, et alors après, dans l'histoire, il y a eu plusieurs de séparations, et notamment, il y a eu effectivement toute la fonction prophétique, et la fonction prophétique...
Là, c'est un contre-pouvoir.
C'est des hommes qui sont envoyés pour dire au roi, là, tu fais bien, là, tu fais pas bien, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir de la parole, un pouvoir de la justice, et cette parole de justice s'impose à tous, y compris au roi. Et d'ailleurs, les commentaires du Premier Testament ont remarqué que quand les rois écoutaient les prophètes, le pays allait plutôt bien, était plutôt prospère, mais comme la plupart du temps, il est désagréable d'avoir une parole qui nous conteste, eh bien, la réaction la plus naturelle, c'est de vouloir éteindre les prophètes, et que chaque fois que les rois ont voulu éteindre la voix des prophètes, alors le pays a dégénéré.
Mmh.
La situation politique du pays a dégénéré. Politique, morale, spirituelle, a dégénéré.
D'accord, et il faut voir maintenant, je pense, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament aussi, comment ce dialogue ou cette opposition se fait à travers différentes époques aussi, enfin, et différentes situations. Une pause musicale et nous nous retrouvons. Théologie en liberté, nous sommes en entretien avec Antoine Nuis, docteur en théologie et puis directeur de publication du journal Réforme pendant assez longtemps, aujourd'hui toujours écrivant dans ce journal et écrivant différents livres sur la foi, sur la religion, sur la spiritualité d'une manière plus générale. Nous sommes là en entretien sur ce que nous pouvons penser de la laïcité à partir d'un article qu'il avait écrit dans Réforme, justement. Et nous en sommes à cette seconde partie de la Bible, qui est le Nouveau Testament. Comment est-ce que Jésus intervient sur ces questions-là, sur la question de la politique face aux religieux ? Qu'en dit-il ?
Alors, j'ai dit dans un premier temps que, donc, bibliquement, fondement... peut-être que la plus grande parole politique qu'on peut trouver dans les Écritures, c'est justement la distinction entre le champ du politique et le champ du religieux. Et il y a un petit verset qui est un peu discret, qui peut nous mettre sur la piste, c'est à un moment, il y a un homme qui interpelle Jésus et qui lui dit « Dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. » Et Jésus dit « Va voir le juge, c'est son boulot, c'est pas le mien. » Hein? C'est-à-dire que donc Jésus refuse de rentrer dans les problèmes d'héritage, parce que les problèmes... Et puis, alors après, il a tout un discours en disant sur la générosité, sur le rapport à l'argent, tout ça. Mais cette introduction nous dit déjà que, pour Jésus, il y a des questions qui relèvent du juge, qui ne relèvent pas de sa responsabilité spirituelle. Et d'ailleurs, j'avais lu un livre qui disait que... peut-être que la différence entre Jésus et puis Moïse et Mahomet, c'est que Jésus a vécu dans un monde, dans une société qui était juridiquement organisée par le droit romain, alors que Moïse et Mahomet étaient des tribus dans lesquelles il n'y avait pas de droit. Donc, ils ont été à la fois chefs religieux, mais aussi chefs politiques. Enfin, je dirais, oui. C'est avec... Alors que Jésus, vivant dans un monde qui était déjà structuré juridiquement, alors ça ne veut pas dire qu'il s'est désintéressé de la vie pratique, concrète, de la façon dont vivaient les hommes et les femmes qu'il rencontrait, mais ça veut dire qu'il a dit le but de ma parole n'est pas de, d'organiser la totalité de la vie. Ça, pour ça, il y a le champ du politique, c'est son travail, mais peut-être c'est d'aider les hommes et les femmes à comment vivre, comment aimer, comment espérer, comment croire. Voilà, et que c'était ça son évangile. Donc, pas le droit, pas la politique, mais la vie, l'existence.
Oui, légitime, d'une certaine manière, la fonction politique.
Mais complètement. Et d'ailleurs, alors, là, évidemment, il y a ce très fameux verset là, qu'on ressort toujours sur la laïcité, mais qui correspond bien, c'est « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César ». C'est-à-dire que Jésus, dans cette parole-là, cette parole-là est dite en réponse à une question qui lui est posée, et la question est la suivante, devons-nous payer l'impôt à César? C'est-à-dire, devons-nous, est-ce qu'on doit être complice de César? Et Jésus répond, oui.
César, les Romains étant occupants de la Palestine de l'époque.
Et Jésus répond, oui, vous devez donner à César ce qui est à sa part, et à Dieu ce qui est à sa part, c'est-à-dire qu'il est, légitimise la part de César, et depuis, dans toute la tradition chrétienne, et on en trouve des fondements bibliques chez l'apôtre Paul et chez l'apôtre Pierre, il y a tout le thème de la prière pour les autorités. Et quand on dit, quand on est appelé à prier pour nos autorités, en faisant cela, quelque part, on reconnaît aux autorités une fonction importante qui nous permet de vivre ensemble dans un minimum de paix et de stabilité. Je veux dire, au temps de Jésus, un maître rabbinique disait « Priez pour les juges, car sans eux, les hommes se dévoreraient crus les uns les autres. » Ouais. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'instance politique, c'est le domaine de... quand c'est pas la loi de la loi, c'est la loi du plus fort, c'est la loi des mafias, et personne n'a envie de vivre sous ce régime-là.
Oui, mais... il faut quand même dire que l'Église a très mal compris assez vite ce concept et cette séparation entre Église et pouvoir a été très difficile, surtout quand l'Église, tout d'un coup, a été légitimée, officialisée, sous Constantin par exemple, mais sans venir encore jusque là, on pourra y venir après, mais... même dans les Écritures, dans les lettres de Paul, on s'aperçoit qu'il y a des situations différentes où il y a une espèce d'évolution sur la conception du politique. On prie pour les politiques, soumettez-vous aux autorités, dit Paul à un moment, mais à d'autres occasions, il y a une espèce de... de méfiance quand même par rapport aux politiques.
Alors...
Et tout ça, c'est sûrement dû à des situations où l'Église étant peut-être en difficulté à certains moments, non ?
Alors, il y a effectivement, soyez soumis aux autorités, mais Paul ajoute immédiatement, il définit le cadre des autorités et dit, les autorités, qui sont-elles ? Que font-elles ? Elle dit, elles sont là pour favoriser le bien et arrêter le mal. Donc, tant que le but premier de l'autorité est de favoriser le bien et d'arrêter le mal, alors bien sûr, il faut se réjouir d'abord d'avoir une autorité, et il faut prier pour elle, et il faut la soutenir. C'est dans ce cadre-là que Paul appelait à la soumission et à la prière pour les autorités. Alors ensuite, vous faites probablement référence au livre de l'Apocalypse, au livre dans lequel l'Empire romain est représenté sous la forme d'un dragon, d'une bête, mais... Le dragon, c'est l'autorité quand elle veut prendre la totalité de la place. Voilà. C'est-à-dire quand elle veut aussi accompagner les... C'est quand l'autorité, en gros, dérive vers le totalitarisme. Et le livre de l'Apocalypse a été écrit dans une période de persécution où l'autorité réprimait l'Église parce qu'elle ne voulait pas d'une expression qui soit une expression libre par rapport à elle-même. Alors, ça veut dire que, bibliquement... toute autorité n'est pas légitime. L'autorité qui est légitime est l'autorité qui favorise le bien et qui arrête le mal. Et cette autorité-là, non seulement elle est légitime, mais elle doit être respectée, elle doit être encouragée. Et une vie harmonieuse est une vie dans laquelle la distinction est entre effectivement l'autorité politique et l'autorité religieuse. Alors, c'est vrai que ça, c'est... les données bibliques, et puis qu'après, dans l'histoire, je crois que c'est Thucydide qui est un des premiers penseurs de l'Antiquité, qui a dit la chose suivante, par essence, un homme va jusqu'au bout du pouvoir qu'il possède. C'est qu'il va jusqu'au bout du pouvoir qu'il possède, et il essaie même d'en avoir un peu plus. Mmh. C'est-à-dire que par essence, par définition, le politique a tendance à vouloir élargir de plus en plus son champ de compétences, y compris à grignoter un peu sur les religieux. À l'inverse, les religieux, les autorités religieuses ont envie d'aller jusqu'au bout de leur autorité et voire de gratter un peu sur le politique. Et ça, ce sont des dérives qui sont récurrentes tout au long de l'histoire de l'humain, et que peut-être qu'en revenir à la révélation biblique, ben c'est d'aider à trouver cette juste place ou ce juste équilibre entre le champ du politique et le champ du religieux.
Il y a un autre livre qu'on oublie quand on parle de rapport entre foi, religion et politique, je trouve, c'est le livre de Philémon. Paul, enfin, qui parle à Philémon, un esclave qui est libéré, et il lui dit de retrouver son maître. Enfin, c'est un peu particulier comme.
Alors, dans le livre de Philémon, l'histoire de Philémon, c'est effectivement Philémon, un esclave qui s'est enfui, qui a rencontré Paul probablement en prison, qui s'est converti, et Philémon rentre au service de Paul, et Paul renvoie Philémon à son maître, lequel maître est un chrétien qu'il connaît, qui s'appelle Onésime. Et à ce moment-là, souvent, le livre de Philémon, en disant « mais est-ce qu'on ne trouve pas là une justification de l'esclavage ?» qui évidemment, pour aujourd'hui, est totalement scandaleuse. Alors, il faut savoir que à cette époque-là, dans l'Antiquité, l'esclavage était vraiment le fondement économique, que de remettre en question l'esclavage à cette époque-là, c'était mettre à bas tout l'édifice économique.
Il ne faut pas faire d'anachronisme.
D'autant qu'il y avait esclaves et esclaves. Il y avait entre le statut des esclaves qui travaillaient dans les mines n'avait rien à voir avec des esclaves qui étaient des intendants de très grands domaines. Hein. Je veux dire, donc, ça. Mais ce qui est important dans le livre de Philémon, c'est que Paul dit à Onésime, donc l'ancien maître de Philémon, « Je te le renvoie non plus comme un esclave, mais comme un frère. Hein? » C'est-à-dire, considère-le comme un frère. Et là, il y a quelque chose de très subversif dans le rapport à l'esclavage, c'est de dire que l'esclave est aussi un frère, c'est-à-dire est aussi un humain qui a des droits. Et il me semble que donc, sans contester frontalement l'esclavage, Paul a instillé là un système qui progressivement rendra l'esclavage désuet et plus possible.
Alors, on va finir cette émission, il va bien falloir la finir un jour, alors que pourtant notre dialogue me semble intéressant, important. Notre citoyenneté en tant que chrétien aujourd'hui, comment puiser dans la Bible ce que nous venons de dire, cette séparation entre Église et État, entre Église et foi et religion. Nous avons vu que nous en avions des bases. Comment est-ce qu'on ne peut pas respecter ça, et comment on peut le respecter, et comment le vivre ?
Alors, moi, je crois que un des thèmes et qu'on a, alors, qui rejoint tout à fait notre actualité, c'est essayer de retrouver le respect des politiques. Moi, je suis quand même, là, pour parler de l'actualité brûlante, hein, je suis quand même frappé comme, je veux dire, nos dirigeants politiques sont des gens qui ont une fonction qui est impossible. Hein, impossible parce qu'ils sont soumis à des pressions, et qu'ils font de leur mieux. Alors, moi, il y a des politiques avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais même si je ne suis pas d'accord avec eux, je suis appelé à les respecter parce que ce qu'ils font, d'abord, c'est éminemment important pour notre vie commune, et puis parce que c'est des hommes qui, comme les autres, ont droit à notre considération. Alors, on est dans un régime démocratique, c'est-à-dire que si jamais on n'est pas d'accord avec une politique, et ben, aux élections, on peut décider de voter pour quelqu'un d'autre, mais même si on ne vote pas pour un politique, à mon avis, on doit respecter les politiques, de même qu'on doit respecter, d'ailleurs, ceux de notre bord et ceux de tous les bords, parce que le politique est bibliquement, spirituellement, totalement légitime.
À condition d'être au service.
dans le cadre de ce que disait Paul dans l'Épître aux Romains, favoriser le bien et arrêter le mal, qui est voilà, sa mission au résumé, au plus simple. C'est un théologien qui disait, ce qu'on attend du politique, c'est qu'il arrête le mal et essayer d'apporter un peu moins d'injustice dans le monde. C'est déjà pas mal.
C'est pas mal, c'est déjà pas mal. Antoine Nuis, merci beaucoup. Et nous nous retrouverons pour une autre émission, mais là, nous sommes maintenant avec cette question de savoir comment vivre notre citoyenneté en tant que croyant, en tant que chrétien aujourd'hui, dans le respect, dans la prière aussi, pour les autorités. Et puis, il y a une œuvre, on disait, peut-être aussi, quelquefois, d'opposition. C'est aussi possible.
Mais on peut s'opposer tout en respectant.
Exactement. Très bien. Merci, Antoine Nuis. Chers auditeurs, vous étiez à l'écoute de Théologie en Liberté, Joël Baumann au micro. J'étais en entretien avec Antoine Nuis, pasteur, docteur en théologie. Vous pouvez nous retrouver sur radioalliance+.fr, écouter nos podcasts. Et nous vous disons en tout cas à bientôt.